Je vous remercie infiniment pour l'invitation et c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous pour partager la parole de Dieu. C'est un privilège. Et j'aimerais juste vous dire que pour les amis d'Haïti, continuez à prier pour Haïti. Ça va toujours pas bien, comme vous pouvez le constater. Ça va très, très, ça continue à s'empirer. Ceux qui ont l'habitude de venir avec moi en Haïti, en arrivant à Port-au-Prince, nous prenons l'avion missionnaire pour nous rendre dans le nord-ouest. Ça n'existe plus. Ils ont fermé les portes parce que, à cause des kidnappings, les problèmes. Alors, continuez à prier pour le pays. Ce matin, je me réjouis, je suis vraiment content de la façon que le Seigneur a dirigé le culte. Le Seigneur m'a mis à cœur un thème et vous l'avez commencé dans la première partie. Pour voir comment le Saint-Esprit a dirigé les choses, je rends gloire au Seigneur pour ça. C'est son œuvre, parce que c'est sa parole vivante et permanente. Et c'est un privilège quand on partage cette parole. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? La victoire à Gethsémané, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous partager. La victoire à Gethsémané. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux, mais je ne vais pas vous parler du dimanche des rameaux, mais je vais vous parler de Jésus-Christ, la victoire qu'il a eue à Gethsémané. Vous savez, un grand architecte avait conçu un plan pour construire un bâtiment extraordinaire, de grande envergure, pour que ce bâtiment soit construit. Il faut que les plans soient exécutés à la lettre, de A à Z. Et nous pouvons comparer notre Dieu à cet architecte. C'est l'architecte par excellence. C'est lui qui a conçu le plan du salut pour la rédemption, pour notre rédemption, pour le salut des hommes et des femmes, en envoyant son Fils dans ce monde pour venir nous racheter. Alors, quand Jésus était parmi nous, les ennemis de Jésus voulaient l'attraper à tout bout de champ, voulaient mettre la main sur lui. Souvent, nous disons dans les Écritures, il ne pouvait pas parce que son heure n'était pas encore venue. Et nous savons, dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, Jésus dit à son Père, maintenant, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Donc, ce matin, nous allons parler du grand combat que Christ a mené à Gethsémané. Et surtout la victoire qu'il a eue en harmonie avec son Père. Je me souviens de ce cantique que mon Père aimait beaucoup. Mon Père était un grand musicien. Il aimait beaucoup chanter. Il avait une très belle voix. Et ce cantique, souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Souviens-toi des épines blessant son noble front, des compassions divines supportant chaque affront. Pense à son agonie. Pour toi, pauvre pécheur, sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède ton cœur à ton Sauveur. C'est un très beau cantique. Donc, ce matin, j'aimerais que vous ouvriez la parole avec moi, la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26. Matthieu 26, nous allons lire la parole de Dieu, le verset 30 jusqu'au verset 46. Matthieu 26, verset 30 à 46. Après avoir chanté les psaumes ou les cantiques, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous une occasion de chute. car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Mais Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Pierre lui répondit, quand il faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Et tous les autres disciples dirent de même. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémané. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, s'avança un peu, se jetant la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez pas donc été capable de veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour une troisième fois en répétant les mêmes paroles. Puis, il revint vers les disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici que l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » C'est le texte que notre frère Nelson a lu dans Marc. Voici, c'est le même texte que le Seigneur m'avait confié pour vous parler ce matin. Donc, nous allons considérer ensemble annonce et réaction avant Gethsémané. Annonce et réaction avant Gethsémané. Le combat sur les genoux à Gethsémané, deuxièmement. Et troisièmement, la victoire après la tempête dans l'âme. C'est tout ce que Jésus a vécu. C'est ça que nous allons voir ensemble par le texte qui est devant nous ce matin. Le maître vient de vivre quelque chose d'extraordinaire avec ses disciples. C'était la Pâque juive, cette fête que Dieu avait prescrite à son peuple. La première Pâque a eu lieu en Égypte, la délivrance de l'esclavage. Et Dieu avait dit qu'il fallait fêter cette fête de façon perpétuelle. Et Jésus a fêté la Pâque en tant que juif. Et pendant cette fête, on peut dire que c'est la dernière Pâque juive de l'ancienne alliance que Jésus a fêtée avec ses disciples. Parce qu'il a introduit une autre fête, il est venu avec quelque chose de nouveau. Il a pris le pain. Il a pris le vin, il a dit, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Les disciples étaient habitués avec des paroles métaphoriques. Les disciples pouvaient comprendre ce que Jésus voulait dire. Le pain représente le corps de Jésus et le fruit de la vigne représente son sang. Mais Jésus annonce aussi une autre chose à ses disciples. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le verset 29. Donc, Jésus parle ici du millénium, le royaume terrestre, et c'est ce que nous croyons. Jésus va régner jusqu'à ce que vous en boirez de nouveau avec nous dans le royaume de mon Père. Et comme d'habitude, les Juifs à cette fête chantaient des cantiques de louange, parce que Dieu les avait libérés. Et c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Et souvent, il paraît qu'ils ont chanté les psaumes 113 à 118, qui sont des psaumes de louange. Jésus annonce quelque chose à ses disciples qui explique clairement la faiblesse du cœur humain quand on est frappé par l'épreuve. La faiblesse du cœur humain. Jésus a dit, je serai pour vous une occasion de chute. Je serai pour vous tous une occasion de chute. Jésus voulait dire clairement ce qui va arriver à ses disciples. On voit que Jésus emploie les mêmes mots qu'il a déjà employés dans Matthieu 24, quand il parlait de la fin des temps. Une occasion de chute. Que ses disciples vont être trébuchés, succombés par ce qui va arriver. Jésus, connaissant les Écritures, il a cité le prophète Zacharie qui a dit, « Je frapperai le berger et les troupeaux et les brebis seront dispersés. » Nous pouvons bien comprendre ça si on a des gardiens, il n'y a pas beaucoup de gardiens de brebis ici, mais si on vient attaquer le brebis, le mouton, le troupeau, on attaque le berger, les brebis se dispersent. C'est exactement ce qui est arrivé. Jésus qui est le berger et le prophète Zacharie avait prophétisé que ça allait arriver. Jésus a mentionné à ses disciples c'est ce qui va arriver. Mais Pierre a pris la parole. Mais Jésus a dit une chose aussi. Jésus a dit, mais après la résurrection, je vous précéderai en Galilée. C'est une parole d'espérance, une parole de victoire. Pierre, connaissant Pierre, un homme toujours prompt à parler, Pierre se mit à parler. Même si tu es pour tous les autres une occasion de chute, tu ne le seras pas pour moi. Pierre est un homme qui faisait confiance à ses forces charnelles. De même, il y a beaucoup de personnes qui croient à leur sagesse. Croient beaucoup à leur sagesse. Ne vous appuyez pas sur votre sagesse, nous dit la parole. Pierre avait la bonne volonté de ne pas abandonner le maître, mais il n'avait pas la force spirituelle de ne pas résister, de rester ferme. Il n'avait pas encore cette force. On peut même se demander si Pierre avait entendu ce que Jésus avait dit, cette parole d'espoir. Vous savez, souvent, quand on est dans une conversation, et puis, on est proche, on est prêt à répondre. Souvent, on prépare notre réponse, ce qu'on va dire. On n'est pas en train d'écouter la personne. On pourrait même se demander si Pierre avait entendu que Jésus avait donné cette parole d'espoir, qu'il sera ressuscité, qu'ils vont les rencontrer en Galilée. Mais Pierre a dit cette parole. Vous savez que tous les disciples de Jésus venaient de la Galilée. Et Jésus a exercé une bonne partie de son ministère en Galilée. Pierre, c'est Luc qui a mentionné ce que Jésus a dit à Pierre. Jésus avait une attention particulière pour Pierre. Voici ce que nous lisons dans Luc 22, verset 31 à 32. Ce que Jésus a dit à Pierre. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous faire passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Satan avait réclamé Pierre pour le faire cribler comme du froment, comme le blé. C'est le propre même de l'adversaire de voir les enfants de Dieu de nous attaquer. Il y a même Satan veut nous réclamer. Nous ne sommes pas à lui. Il n'a plus le pouvoir sur nous parce que nous sommes à Christ. Satan avait réclamé Pierre, étant donné que Pierre était un homme zélé pour le Seigneur, un homme le plus zélé, plus émotif aussi. Satan l'avait réclamé, mais Jésus l'a mis en garde. Mais Pierre ne connaissait pas l'état de son cœur. L'état de son cœur. Vous savez que chaque personne est responsable de l'état de son cœur devant Dieu. Le prophète Jérémie a dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Chaque personne est responsable de l'état de son cœur. Mais la bonne nouvelle, Dieu change les cœurs. Dieu change les cœurs de pierre, les cœurs durs, les cœurs de pierre en cœurs de chair. Quand nous venons au Seigneur, nous venons avec notre tempérament et notre personnalité, n'est-ce pas? Nous sommes devenus une nouvelle créature. Dieu ne change pas notre tempérament, notre personnalité. Ce que Dieu va changer, c'est le comportement de notre personnalité, ce qui ne lui plaise pas. Dieu continue l'œuvre en nous pour nous transformer à l'image de son Fils. C'est l'œuvre de Dieu en nous. Mais Pierre est resté avec sa personnalité parce que Dieu a utilisé cette personnalité à sa gloire. On se souvient quand Jésus disait aux disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre, toujours prompt à parler, tout de suite, l'Esprit a révélé à Pierre qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, c'est sa personnalité. On voit Pierre. Mais Jésus avait Pierre à l'œil. Il avait un conseil pour Pierre. Il a prié pour Pierre. De même que Jésus a prié pour les autres disciples. Jésus prie pour nous aussi. Il prie pour nous. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Jésus prie pour nous? Jésus dit à Pierre, en vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Jésus dit à Pierre la vérité. Et Pierre tout de suite a répliqué au Seigneur. Pierre se voit capable de répliquer au Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il se voyait plus important que les autres, c'est à cause de sa personnalité, il est toujours prompt à parler. Pierre dit au Seigneur qu'il est prêt à mourir, qu'il ne va pas renier le Seigneur. Et tous les autres disciples disent la même chose. Prêt à mourir. Vous savez, combien de fois nous rencontrons des chrétiens qui disent au Seigneur qu'ils veulent aller jusqu'au bout, prêts à mourir pour le Seigneur. Mais en cours de route, ils retournent en arrière. Luc nous dit que, Luc 9, verset 62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu, n'est pas propre pour le royaume de Dieu. » Si vous, je ne sais pas s'il y a des fermiers ici. Si vous faites votre sillon, vous êtes dans votre chambre, vous devez regarder tout droit pour ne pas avoir des sillons croches. Quelqu'un qui regarde par en arrière, ça va être tout croche. Hein. On appelle des personnes double intérêt. Dieu ne veut pas que nous ayons un double intérêt, que nous regardons vers le but. Dieu veut que notre cœur soit tout entier à lui. Il fait le travail en nous. Le combat sur les genoux à Gethsémané. Il y a quelques années, j'étais encore enfant, j'ai entendu un frère qui est venu voir mon père était dans le ministère, avec un ton provocateur. en disant que Jésus-Christ ne voulait pas aller à la croix. Il m'a dit ça comme ça. Et moi, je connaissais le Seigneur très jeune. Je n'étais pas tellement content dans mon cœur pour dire un homme qu'il va être capable de comprendre la parole de Dieu, comment il a pu dire une telle chose. Mais vous savez, il y a encore beaucoup de chrétiens qui ont cette idée que Jésus ne voulait pas aller à la croix. Quand nous considérons Gethsémané, quand nous considérons le tableau de souffrance que Jésus allait subir, Jésus savait tout ce qui allait lui arriver. Nous ne pouvons pas dire catégoriquement parce qu'il ne voulait pas. Nous devons apporter des nuances. Il y a des nuances à apporter, des compréhensions. Imaginons si Jésus avait décidé de ne pas se rendre à la croix. Toute la promesse de l'Ancien Testament serait inutile. On pourrait même employer un terme, serait la bouillie pour les chats. La parole de Dieu, la parole ne serait plus la parole de Dieu. Il n'y aurait plus d'église. L'église ne serait plus le corps de Christ. Et nous ne serons plus ce que nous sommes aujourd'hui. Bref, le travail du grand architecte serait tombé à l'eau. Mais heureusement, ce ne fut pas le cas. Jésus est allé à Gethsémané. Pourquoi? Pour prier. Il est allé dans ce jardin, Gethsémané qui signifie pressoir à l'huile. C'est un lieu avec un nom symbolique. Jésus a subi beaucoup de pression dans ce lieu, à Gethsémané, où il est allé pour prier. C'est un jardin des oliviers. À cette époque de l'année, paraît-il qu'il y avait des fleurs, du parfum venant des fleurs, des oliviers centenaires. Quelqu'un avait bien planté ce jardin. Jésus n'est pas allé dans ce jardin pour admirer ce jardin ou pour sentir les fleurs ou même pour observer la ville de Jérusalem parce que c'était sur une hauteur, pour voir les maisons qui sont allumées ici et là. Mais Jésus est allé pour prier, pour avoir cette rencontre avec son Père. C'est un lieu que Jésus connaissait. Les disciples connaissaient. Alors, Judas connaissait ça. C'est pourquoi il est venu pour rencontrer Jésus avec ses disciples dans ce lieu. Jésus est allé dans ce lieu pour livrer le plus dur combat de sa vie. Le plus dur combat, le dernier combat, je dirais même, de sa vie, pour prier. Oui, notre frère a mentionné le baptême de Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? Tout de suite, avant que Jésus commence le ministère, il est allé se faire baptiser par Jean. Et il est allé tout de suite au désert pour être tenté par le diable, c'est ce que nous dit la parole, pour être tenté par le diable, pour passer l'épreuve. Et il a réussi cette épreuve. Il a été victorieux de la mort, victorieux du diable, du monde, de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Jésus est victorieux. Il a passé l'épreuve. Tout le long de sa vie, il a mené cette vie de prière. Mais à Gethsémané, on voit une courte période très intense de la vie de notre Sauveur. Il a pris ses disciples, les 11 disciples, parce que Judas était parmi ceux qui allaient venir les livrer, les 11 disciples, il les a divisés en deux camps. André, 8 d'un côté et 3 de l'autre. Les 8, André, Thomas, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Philippe, Barthélemy et l'autre Simon. Il y avait deux Simon, Simon-Pierre et l'autre Simon, le Simon, pour le différencier, le Zélote. Les 8 étaient assis sur les bancs des pèlerins dans ce jardin. Il a pris les 3, les plus intimes, Pierre, Jacques et Jean, les mêmes qui étaient avec lui sur la montagne de la transfiguration. Il les amène avec lui dans un lieu. Il a dit, on dit que Jésus commençait à éprouver de la tristesse et d'angoisse. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Le maître a demandé de veiller avec lui. Quand nous arrêtons vraiment pour penser ce que Jésus avait demandé à ses trois amis, ce n'était pas si difficile que ça de veiller une heure avec un ami. Mais pour ses amis, pour Pierre, Jacques et Jean, c'était très dur de rester éveillé avec Jésus, de rester éveillé. Jésus était dans l'angoisse. Vous savez, quand un frère ou une sœur nous demande, nous partage un fardeau de prière, de l'aider dans la prière, nous ne devons pas prendre ça à la légère. Parce que si on prend ça à la légère, si on ne se met pas dans la peau de cette personne, si on n'est pas animé de l'amour pour cette personne, pour penser à lui dans la prière, ça pourrait tout facilement tomber dans l'oubli. Fatigue de l'oubli. Endormi. Mais nous devons prendre ça à cœur. Jésus était seul quand il priait son Père à Gethsémané. Et dans sa première prière, il a dit, « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Jésus n'était pas en révolte contre la volonté divine. Il connaissait la volonté de Dieu. Il est venu pour ça, pour cette heure. Mais, étant donné qu'il était humain, la nature humaine, il lutte encore. Il lutte encore et c'est tout à fait normal parce qu'il voyait tout ce qui allait arriver. La lutte de Jésus est l'archétype, c'est-à-dire le modèle, l'original de toutes nos luttes aujourd'hui, quelles que soient les luttes que nous avons. La lutte de Jésus, c'est l'archétype. C'est le modèle. Vous savez, quand nous sommes dans l'angoisse, nous sommes angoissés, nous ne savons pas quoi faire. Pour certains d'entre nous, on doit aller voir des psychologues pour nous expliquer qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui cause cette angoisse, ce chagrin. Mais pour notre Seigneur Jésus-Christ, il était au courant. Il savait ce qui l'angoissait. C'est pourquoi il est venu vers son Père. Moi, je dirais même, c'est un point de vue personnel, le fait que Jésus a tellement lutté, ça lui qualifie encore plus, à mes yeux, pour être notre représentant dans la présence de Dieu. Le fait qu'il a lutté comme ça, dans sa nature humaine, avant d'aller à la croix. Je pourrais même dire que Gethsémané est comme le reflet d'un miroir d'une lutte profonde, d'un cœur humain devant Dieu. Jésus a fait cette lutte pour moi, pour vous. Il a fait allusion à cette coupe, la coupe qui fait allusion à la mort qu'il allait subir. Vous savez, parfois, nous qui sommes humains, nous, même les chrétiens, nous aimerions vraiment savoir quel malheur qui va nous arriver. Hein? Nous sommes curieux. C'est une grâce que Dieu nous a faite. C'est une grâce, Dieu nous fait grâce de ne pas savoir quelle douleur, quel malheur qui nous attend demain. Bon, il a dit de ne pas nous inquiéter. Mais pour notre Seigneur Jésus-Christ, il savait. Il savait quelle mort atroce qu'il allait subir, quelle souffrance qu'il allait se charger. Et surtout, la séparation avec son Père, cette union depuis toute l'éternité, il n'a jamais séparé de son Père, toujours uni à son Père pour porter nos souffrances, nos péchés. Il a dû subir cette séparation avec son Père pour un temps. C'est pourquoi il est allé à Gethsémané pour prier. La mort est l'ennemi de Dieu. Jésus était complètement homme, homme parfait, sans péché, a partagé cette peur naturelle qu'éprouve la mort. On peut même se demander, nous pouvons même nous demander, étant que le divin Fils, étant le Fils de l'homme, le serviteur de Dieu, est-ce qu'il n'a pas subi un peu même plus que tous les autres hommes? Je ne sais pas, mais la question peut se poser. Tandis que la parole nous dit, le prophète Ésaïe nous dit qu'il est homme de douleur, habitué à la souffrance. Jésus-Christ a porté nos douleurs. Et la coupe symbolise la fureur de la colère divine contre le péché. Le prophète Ésaïe a dit dans Ésaïe 53, verset 12, « Le Christ, dans son corps, allait porter les péchés de beaucoup d'hommes. Il a prié. Il était en harmonie avec son Père. Il était soumis à son Père. » Jésus revient vers les disciples qu'il a demandé de veiller. Il s'est adressé à Pierre. Pourquoi Pierre? Parce qu'il savait ce qui allait arriver à Pierre. Il a dit à Pierre, « Vous ne pouvez pas veiller une heure avec moi. » C'est un avertissement que Jésus donne à Pierre, d'être sur sa garde, parce que Pierre allait avoir une très forte tentation de régner ou ne pas régner le Seigneur, et vous connaissez l'histoire. Et dans sa deuxième prière, Jésus dit à son Père, « S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et il a fait cette troisième prière en répétant les mêmes paroles. Jésus a mené une lutte, un combat solitaire sur ses genoux. Ses amis n'ont pas su veiller avec lui. Jésus était uni à son Père comme d'habitude, uni à son Père. Vous savez, c'est un exemple pour nous aussi. Le Fils avait besoin de la prière. À combien plus forte raison, moi, j'ai besoin d'être soutenu dans la prière. La prière, c'est l'âme du chrétien, l'âme des croyants. Jésus a emporté une grande victoire. La victoire dans la tempête intérieur de son âme. La résurrection, la victoire à la croix, la victoire de la résurrection a commencé à Gethsémané, quand Jésus est allé vers son Père pour questionner, étant homme parfait, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, non pas ma volonté, mais ta volonté, ce que tu veux. Il était soumis à son Père. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux a donné un merveilleux texte que je vous invite à tourner avec moi dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 10. Voici ce que l'auteur nous dit, Hébreux 5, versets 7 à 10, qui montre cette victoire que Jésus a eue à Gethsémané. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Dans les jours de sa chair, il a présenté avec de grands cris. Je suis sûr que l'auteur de l'Épître aux Hébreux pensait à ce qui s'était passé à Gethsémané, comment notre Seigneur a lutté. C'est une vérité théologique que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Il est venu en chair, le Verbe incarné. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. La chair, dans ce texte, fait référence à la faiblesse qui est inhérente à la nature humaine. Jésus, en venant vers nous, il a pris une chair semblable à la nôtre, excepté le péché. Il est, lui, ce seul homme sans péché. Quelqu'un a même dit, c'est comme ça, ça devrait être difficile pour un homme sans péché de vivre parmi les pécheurs. Et en plus, il y avait quelqu'un parmi lui qui gardait la caisse, qui était un voleur. C'était quelque chose. Bref, c'est une parenthèse. La nature humaine que Jésus avait, c'est cette même nature qu'Adam avait avant le péché, avant la chute. Donc, Jésus avait cette nature. Il s'est abaissé. Son abaissement le qualifie pour être notre représentant de la présence de Dieu. Il est notre avocat. L'avocat de tous ceux qui l'acceptent comme maître et seigneur. Nous avons un avocat dans la présence de Dieu. Vous savez que Jésus est allé jusqu'à la croix. Il est mort. Quelqu'un a déjà dit, arrivant au ciel, je vais reconnaître notre Seigneur. Parce que les marques sont encore là. Les marques de son passage sur terre sont encore figées. Les marques sont figées. En lui, il est notre sauveur, il est notre avocat, notre représentant de la présence de Dieu. Jésus est venu vers les disciples, il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. À bien y penser, le Fils avait besoin de soutien des autres, de son Père. À combien plus forte raison, nous avons besoin aussi le soutien de Dieu dans notre vie, le soutien de notre avocat. Jésus, dans son angoisse, a présenté de grands cris, des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffert. Il fut exaucé. C'est ce que ça nous dit. Il fut exaucé à cause de sa piété. C'est ça qu'il faut que nous retenions. Non pas penser que Jésus ne voulait pas aller à la croix. Il voulait y aller, il connaît le plan de Dieu, il est venu pour ça. Mais il fut exaucé. Et c'est normal qu'il aille à la croix. Je pense que le fait même qu'il a lutté, c'est une chose qui nous encourage de voir comment lui aussi, il est allé, il a été tenté, mais sans commettre de péché. Ça devrait nous encourager dans nos luttes de chaque jour. Il a lutté pour nous. Il est notre avocat. Les amis ont failli à leur tâche. Mais le Père n'a pas failli à sa tâche. Il était là pour soutenir son Fils bien-aimé. Vous savez, maintenant, si vous avez des amis proches qui vous abandonnent, nous devons nous rappeler que notre Dieu ne nous abandonne jamais. Il est toujours là, à notre côté. La victoire que Jésus a eue à la croix, avec cette force, quand on le clouait, quand on perçait son côté, il avait plus de force après cette victoire qu'il a eu à Gethsémané. Et c'est le début de la victoire qu'il a eu à la résurrection, qu'il est ressuscité. Il est ressuscité, c'est une preuve tangible que Dieu a approuvé son œuvre. Vous savez, c'est Luc, qui est un médecin, qui a mentionné un détail que j'aimerais vous attirer l'attention. Dans Luc 22, versets 43 à 44, Dieu a envoyé un ange pour soutenir son fils. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en angoisse, il pria plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Je suis certain, aucun d'entre nous n'a subi un tel sort. On prie comme des grumeaux de sang. On voit comment l'intensité de cette douleur, de l'angoisse que Jésus subissait. Dieu a envoyé son ange pour le fortifier. Donc, les disciples n'ont pas pris cette arme spirituelle qui était à leur disposition, qui était la prière. Nous devons être armés de cette lame spirituelle que Dieu nous donne, qui est la prière. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous ne devons pas être endormis de la nonchalance spirituelle, c'est-à-dire manque de vigueur, manque d'empressement pour servir le Seigneur. Et nous devons être éveillés, réveillés, toujours prêts au service de notre Maître. Il faut travailler pour lui, car la nuit vient où personne ne pourra travailler. Nous sommes au service de notre Maître. Non, nous ne savons pas si Pierre avait pensé que ça pourrait aller passer mal. Parce que Pierre avait son couteau avec lui. Et quand on est venu arrêter Jésus, il a sorti son couteau, il a coupé l'oreille de Malchus. Et ce n'était pas ce genre de soutien que Jésus voulait. Jésus avait besoin de soutien dans la prière. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » C'est Matthieu 26, verset 52. « Tous ceux qui périront par l'épée. » Et c'est Luc qui a mentionné ce que Jésus a fait. Luc, qui est un médecin. Jésus a guéri l'oreille de Malchus. On voit Jésus, même ceux qui sont venus pour lui faire du mal, il veut leur bien. Si vous vous sentez abandonné, oublié, rejeté, trahi, rappelons-nous, nous devons nous rappeler que notre Maître a passé par là, trahi par les siens. Qu'est-ce que Jésus a fait? Les disciples qui l'ont abandonné, Pierre qui l'a renié, Jésus a pardonné. Ce qui est frappant, Jésus n'a même pas mentionné à ses disciples, « N'oublie pas, tu m'avais abandonné, n'oublie pas Pierre. » Non, il a pardonné. C'est un principe même de pardon. Quand on pardonne, on ne retourne pas aux fautes du passé. On rencontre souvent dans les relations humaines, quelqu'un a dit, OK, je te pardonne. Et quelques temps plus tard, n'oublie pas ce que tu m'avais fait. Hein. Ça, ce n'est pas le pardon. Dieu pardonne et oublie. La parole de Dieu nous dit qu'il prend nos péchés, il les enfonce au fond de la mer et il ne se souvient plus de nos iniquités. Jésus a pardonné. Et il faut choisir de pardonner. C'est Jésus qui donne la force de pardonner. Il faut choisir de pardonner. C'est un choix personnel de pardonner. Il a pardonné au bourreau qui l'ont crucifié, qui l'ont flagellé, qui l'ont maltraité. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je suis sur le point de terminer. Une fois, j'ai pensé à une idée. J'étais en train de réfléchir. Il dit, si j'arrive au ciel, ben je sais que je vais au ciel, j'ai la sueur de mon salut, mais c'est une supposition. Supposons que j'arrive au ciel et que sur la terre, j'avais un frère ou une sœur, que j'avais un peu de rancune, que je ne voulais pas pardonner. Et que je vais me présenter devant la présence du Seigneur. Quel malaise! J'ai pensé à ça, quel malaise! Mais le Seigneur ne veut pas que ça arrive à aucun de ses enfants. Il nous donne sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit dans Romains 12, verset 18? S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il arrive que ça, ça ne dépend pas de nous. Mais s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et dans Colossiens 3, verset 13, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça, c'est la parole du Seigneur pour moi, pour vous. Ça peut arriver dans n'importe quelle famille. Le pardon, c'est ce que Jésus nous enseigne. Notre Seigneur Jésus a remporté la grande victoire sur la tentation, son combat solitaire. Il a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes. Il est venu pour faire la volonté de son Père. Et la grande victoire qu'il a eue à la résurrection a commencé à Gethsémané. Parce qu'il a dit oui et il fut exaucé à cause de sa piété. Mes frères et sœurs, la parole nous demande de nous approcher de lui. Approchez-nous, approchez-vous donc avec assurance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Hébreux 4, 16. Quel que soit le besoin, la parole nous invite à nous approcher. On a un peu de difficultés de toutes sortes. Apportons-le au Seigneur. Et nous avons l'espérance qu'il viendra bientôt nous chercher. Et l'apôtre Paul dit, je termine avec ce verset, dans 1 Corinthiens 10, verset 13, verset que vous connaissez. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Approchons-nous au trône de la grâce avec nos fardeaux. Et la victoire de Christ est notre victoire. Dans nos luttes, il a lutté pour nous. Et nous avons la victoire en Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos vies. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à la mettre en pratique. Merci pour cette parole que tu nous as laissée. Cette parole vivante et permanente. Seigneur, merci pour ton œuvre dans nos vies. Merci pour l'espérance de la vie éternelle. Un jour, nous serons dans ta présence pour te louer pour toute l'éternité. Gloire à toi, Seigneur, pour ton œuvre. Amen.